Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver dans cette salle. La dernière fois, on était un peu relégué dans la salle des colonnes, donc ça fait du bien d'avoir un peu plus de lumière. Très heureux temps pascal à tous. Christ est ressuscité, en vérité, il est ressuscité. Alléluia. Et telle est notre joie et une des raisons de notre rencontre de ce soir. Nous avançons et nous approchons d'ailleurs du terme de ce parcours sur chair, corps, monde. Qui nous a occupés cette année avec de grands extraits du quatrième évangile, l'évangile de Jean. Donc, bienvenue ce soir donc à Saint-Eustache pour notre avant-dernière séance. L'évangile de Jean, dans l'image qu'on peut en avoir, souvent on pense à un évangile mystique, évangile théologiquement très élaboré. Il faut savoir qu'au plan littéraire, il est plus pauvre, contrairement à l'évangile de Luc, qui est écrit dans un grec éblouissant, très littéraire, avec une grande recherche lexicale. En particulier, l'évangile de Jean reflète même des araméismes, à tel point qu'on a pensé qu'il était dépendant d'une source araméenne, hébraïque, donc palestinienne. Pour le dire en quelques mots et de façon un peu schématique, en général, on considère qu'il émerge dans deux milieux différents, un milieu palestinien, judéen peut-être initialement, donc ce qui explique sa langue et ce qui explique aussi les grands débats, les grandes polémiques où Jésus s'affronte aux grands groupes religieux de l'époque, qui de plus en plus sont appelés les Juifs, vous savez, hein, dans le quatrième évangile, on ne distingue pas les pharisiens, les sadducéens. On dit souvent les Juifs, preuve probablement que ce milieu, cette communauté, qui a pu à un moment être un peu une secte ésotérique, hein, qui dérivait loin de la Grande Église et qui se raccroche finalement à la fin du 1er siècle à la Grande Église, donc ce milieu palestinien se transporte à la faveur de certains événements, peut-être de l'exclusion de la synagogue, on ne sait pas trop, dans un milieu plus grec. Soit en Asie mineure, soit en Syrie, le milieu antiochien ou éphésien, puisqu'on parle souvent d'Éphèse. Vous savez que la tradition dit que Marie est morte à Éphèse et que l'évangile de Jean ne serait pas étranger totalement à cette tradition qui veut que le disciple que Jésus aimait ait vécu avec la mère de Jésus. On ne le saura jamais, bien sûr, mais enfin, vous voyez, donc il y a le milieu palestinien qui explique la langue. Et donc un grec assez pauvre, assez rudimentaire, et le milieu éphésien qui explique probablement ce côté quelquefois un peu ésotérique de l'évangile, même s'il est loin d'être un évangile gnostique et qu'il tient fermement l'incarnation. On n'a aucune trace de désincarnation du Verbe, comme disait Bernanos dans le quatrième évangile. Au contraire, il ne cède pas sur l'incarnation, c'est même le coup de trompette initial, hein. Le Verbe s'est fait chair. Mais peut-être, justement, parce que théologiquement, les choses n'étaient peut-être pas aussi claires. Donc voilà pour l'origine littéraire et théologique de cet évangile. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce qui fait l'unité de cet évangile, c'est quand même l'autorité incontestable d'un homme. L'autorité spirituelle d'un témoin oculaire. Est-il Jean, le fils de Zébédée? Nous n'en savons rien, on peut faire des conjectures là-dessus. En tout cas, il est certain que l'Évangile parle de ce disciple bien-aimé, disciple que Jésus aimait. On s'est interrogé pour savoir si c'était l'un des douze ou bien quelqu'un d'autre, peut-être celui qui prête la salle haute, le Cénacle, Yves-Marie Blanchard, qui a été mon professeur d'écriture sainte, tenait pour cette tradition-là. En tout cas, il y a une autorité au sens auctorial du mot, c'est-à-dire il y a un auteur qui est plus qu'un auteur, qui est celui qui est l'instance qui garantit l'authenticité de ce qui est transmis. Et on est toujours frappé de voir que le quatrième évangile s'enracine dans une grande tradition, justement, où Saint Polycarpe, qui se réclame lui-même du disciple que Jésus aimait, transmet à Saint Irénée de Lyon, donc vous voyez, ça se rapproche de nous quand même. Voilà ce siège de l'archevêque du Primat des Gaules, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Donc le siège d'Irénée de Lyon se voulait la troisième génération après l'évangile de Jean et se réclamait du quatrième évangile. Donc une autorité spirituelle incontestable, très forte, même si elle est un peu sans visage. Et d'autre part, j'ai envie de dire un climat spirituel aussi très particulier. J'ai dit secte ésotérique tout à l'heure, c'est un peu dur, mais il est certain que l'exclusion de la synagogue détermine un type de mentalité, un type de profil assez repérable dans l'évangile, à savoir probablement des hommes et des femmes qui voyaient de plus en plus le monde, vous savez que le monde chez Saint Jean, hein, on en parle depuis le début de l'année, le monde qui s'oppose à Dieu, donc le monde, cosmos en grec, hein, le monde est vu de plus en plus comme une réalité menaçante. Menaçante, et donc vous savez, lorsque sociologiquement ou psychologiquement on est dans cet état d'esprit, je pense à Port-Royal par exemple au XVIIe siècle, lorsqu'on se sent menacé par le monde, la vie mondaine, etc., les forces mondaines, on a tendance bien sûr à chercher soit un refuge, soit une évasion, et à privilégier le spirituel sur le matériel. Puisque le matériel est frappé d'indignité, donc le spirituel prend une dimension extraordinaire et presque envahit tout le champ de l'humain. Et donc on a un dualisme, du coup, un dualisme flatté par la philosophie grecque, c'est-à-dire il y a vraiment, il y a l'âme, le corps, l'esprit, la matière, etc. Donc on flirte, Monsieur Regnault ne me dira pas le contraire, on flirte avec la gnose, voilà. Et chez Saint Jean, on est toujours, voilà, mais à mon avis, on n'y tombe jamais. Alors, je ne sais pas si tu es d'accord avec cette
Oui,
introduction.
non, non, je suis d'accord. Mais c'est vrai que dans l'évangile selon Jean, on a l'impression qu'il y a du plus ancien, finalement, des traces qui semblent vraiment proches du Jésus et de la Jérusalem de l'époque, avec des choses qui semblent vraiment anciennes, dans leur jus, j'allais dire. Et puis il y a des choses qui semblent effectivement beaucoup plus tardives, et on sent bien, c'est, j'allais dire, c'est peut-être plusieurs couches de rédaction. Ensuite, pour le monde, je ne sais pas si c'est si négatif dans l'évangile selon Jean quand même, parce que effectivement, il y a Dieu s'intéresse au monde. Alors bien sûr, avec ce verset le plus connu, hein, de la Bible, peut-être, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique. Et donc Dieu aime le monde. Donc il n'y a pas un monde menaçant qui vient ruiner, j'allais dire, le plan de Dieu. Au contraire, il y a un Dieu qui vient ensemencer le monde. Et donc c'est un monde qui est un peu chaotique, c'est un monde qui est comme le champ de la parabole du semeur, ou comme la mer sur laquelle marche Jésus. C'est qu'effectivement, c'est quand même un peu de la matière sauvage. Et là, on va le voir, on ne prie pas pour nous sauver du monde, nous libérer du monde, nous extraire du monde, comme on pourrait le voir dans des pensées très, effectivement, plus radicalement, je dirais, coupé des sectes, coupé du monde, voilà, ou voulant faire des sectes de purs. Mais au contraire, il y a un envoi dans le monde, en fait, tout le temps. Le Christ, il est envoyé dans le monde. Et puis même le prologue de Jean, c'est vrai qu'il y a ces deux faces, mais un petit peu, il y a la lumière et il y a le monde. Mais quand même, voilà, c'est envoyé chez les siens et le monde n'a pas reçu. Mais bon, quand même, Dieu envoie dans le monde, quoi, c'est ça. Et donc, il n'a pas reçu, mais il faudrait relire ce prologue. Hein. Voilà, le monde ne l'a pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc le monde n'a pas reçu, mais il a reçu quand même, en fait. Il a reçu partiellement. Et on est dans ce basculement, ce glissement, j'allais dire, d'un monde qui commence à s'ouvrir, finalement. Partiellement, okay. Il y a comme un glissement qui se fait jour. Et donc, je ne sais pas, c'est moins négatif contre la chair, contre le monde, que peut-être d'autres, peut-être Paul finalement, mais que oui.
Oui. C'est drôle parce que ça rejoint, c'est intéressant, mais là c'est peut-être un peu un débat que nous avons entre nous. Ça rejoint la conversation qu'on avait l'été dernier lorsqu'on a choisi ce sujet. C'est pour ça qu'on a parlé de
Oui.
chair et de monde, avec entre les deux le corps qui est peut-être le lien. Mais chair et monde, effectivement, parce que de fait, on sent bien qu'il y a une tension qui traverse les textes. Il y a une sorte de dialectique qui traverse tous les textes avec des polarités qui sont, ou des points d'insistance qui sont plus ou moins frappants. Par exemple, la chair chez Paul, effectivement, c'est la condition humaine, la fragilité, comme chez Saint Jean, mais chez Paul, il y a une tendance à voir dans la chair quand même l'inertie qui conduit au péché, qui conduit à la rupture d'alliance.
Tu penses à quel texte, par exemple?
Oh, dans Romains ou Galates,
Ah oui, dans Paul, oui, dans Paul,
oui,
oui.
dans Paul,
Dans
bien
Paul,
sûr,
oui,
oui.
dans Paul.
Et chez Saint Jean, c'est souvent le mot monde qui est un peu affecté de cet équivoque, avec une tendance quand même à faire aller le monde dont nous sommes et enfin, dans lequel nous sommes et dont nous ne sommes pas, etc. Mais c'est intéressant parce qu'au fond, on va le voir tout de suite en lisant le texte, le mot chair lui-même chez Saint Jean subit le même sort parce que le Verbe se fait chair, et c'est la gloire de Dieu quand même qu'il se fasse chair, ce qui est impensable, hein. Dans toute la pensée grecque, c'est inimaginable que le monde de Dieu, le théos, puisse rejoindre ce qui est conditionné, déterminé, précarisé, ce qui est le lieu de la contingence absolue, c'est impensable. Donc il y a dans cette affirmation quelque chose d'hallucinant.
Et qui dit quelque chose sur la chair, quand
Et qui
même.
dit quelque chose sur la chair. Et simultanément, là, je vois dans le texte qu'on va lire où il dit quand même la chair ne sert de rien, etc. Hein, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. J'avais complètement oublié ça, mais on dirait du Saint Paul en fait. Hein, c'est la chair. Saint Paul dirait la lettre tue, l'esprit vivifie. Ici, c'est l'esprit qui vivifie et la chair qui ne sert de rien. Comme si la
Oui, mais
chair était
c'est.
du côté de la lettre,
Oui, c'est ça,
et
parce
qui
que.
n'est pas le vrai verbe.
Oui, mais parce que là, ils font une lecture finalement littéraliste ou matérialiste de ce que raconte Jésus. Or, il est en train de parler métaphoriquement. Et donc, il est en train de dire, mais il ne faut pas lire manger ma chair et boire mon sang au sens matériel du terme, je dirais corporel du terme. Il faut le lire d'une manière spirituelle, comme au sens figuré finalement.
Oui, si ce n'est que c'est quand même la chair et la manière de le rencontrer, de s'unir à lui, passe quand même par un acte charnel. On va lire le texte
On
parce
va lire
que,
le texte quand
voilà.
même.
Alors, Maïré nous a fait un montage. La page de gauche, c'est le chapitre 6 de Saint Jean, versets 47-63. Et la page de droite, vous voyez, commence au verset 17,
Ah, c'est 15, chapitre 15, oui.
c'est le chapitre 15, effectivement.
Oui,
Voilà.
oui, oui.
Donc, il y a un écart de 9 chapitres entre les deux pages. Donc, ici, c'est le discours à gauche, le discours du pain de vie. Et à droite, c'est le dernier discours de la scène aux disciples.
Et après les trois étoiles, c'est Jean 17, en fait.
Voilà,
Là.
tout à fait.
La prière de Jésus, c'est Jean 17.
C'est Jean 17. Oui, la prière dite sacerdotale. Quelqu'un veut bien lire la page de gauche, le pain de vie. Nicole, oui.
Sauveur du monde. En vérité, je vous le dis, celui qui croit à la vie éternelle, excusez-moi, j'ai oublié de mettre le
Bah, vous lirez peut-être la deuxième, et puis on va. Anne, voilà, je vous vois chausser.
En vérité, je vous le dis, celui qui croit à la vie éternelle, je suis le pain de vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne, et ils sont morts. Tel est le pain qui descend du ciel, que celui qui en mangera ne mourra pas. Je suis le pain vivant qui descend du ciel. Celui qui mangera de ce pain vivra pour l'éternité. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. Sur quoi les Juifs se mirent à discuter violemment entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas en vous la vie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraie nourriture et mon sang vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Et comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, Ainsi, celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il est bien différent de celui que vos pères ont mangé. Ils sont morts, eux. Mais celui qui mangera du pain que voici vivra pour l'éternité. Tels furent les enseignements de Jésus dans la synagogue à Capharnaüm. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples commencèrent à dire « Cette parole est rude, qui peut l'écouter ?» Mais, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, Jésus leur dit « C'est donc pour vous une cause de scandale ? Et si vous voyiez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. »
Alors c'est un très beau passage, effectivement, pas très facile, hein, Jean, c'est jamais très très facile, parce que ça, je veux dire, ils n'ont pas une expression, j'allais dire, en trois points et en trois fois trois points. Vous voyez, ça ressemble un peu à une feuille morte qui virevolte dans le vent des fois. Donc c'est intéressant parce que ça rajoute des touches qui sont passionnantes. Alors cela dit, il y a beaucoup, comme le disait Jérôme, il y a beaucoup d'hébraïsme derrière. Et donc c'est intéressant, je pense, pour beaucoup de ces mots, en particulier dans l'évangile selon Jean, d'aller chercher un peu les hébraïsmes derrière. Et cette traduction de œcuménique se fait souvent un malin plaisir pour les cacher, en fait. Donc c'est un petit peu, difficile. Que, voilà. Par exemple, en vérité. Dans le texte grec, il n'y a pas marqué en vérité, il y a marqué Amen, Amen. Donc c'est en hébreu dans le texte. Alors pourquoi est-ce qu'ils le traduisent? Ça coupe finalement ce lien avec Amen. Or Amen, c'est pas en vérité au sens où... c'est comme si Jésus, quand on le dit, on dit bon, j'ai juré cracher, c'est vrai quoi. Mais c'est pas ça. Amen, Amen, c'est le mot de la foi finalement. C'est Emouna, c'est la foi. Et Amen, si on le met dans le Notre Père, si on le met dans nos prières, c'est parce qu'il y a beaucoup plus que simplement dire en vérité. C'est pour dire la foi finalement, c'est-à-dire l'engagement, la sincérité, l'attachement, la recherche de Dieu. C'est plus que ça. Et on va le voir, il y a la foi. Parce que je vous l'ai dit, celui qui croit à la vie éternelle. Alors, croit, on pense que c'est la croyance, mais non. C'est le même foi que Amen, en vérité, en fait. C'est pas une vérité de croyance, c'est une vérité de sincérité, une vérité de dynamique, d'orientation tournée vers Dieu, d'espérance en Dieu, finalement. Et puis, il y a d'autres mots qui sont peut-être difficiles aussi. Par exemple, éternel. Éternel, parfois, on pense à... mais ça on l'a dit plusieurs fois, en particulier Jérôme qui maîtrise la langue des hommes et des anges. Éternel, on pense à une abondance infinie en termes de quantité de temps. En fait, ce mot-là, c'est plutôt une abondance en termes de qualité de temps. Vous entendez ou pas?
Bon, oui, oui.
Donc c'est une abondance en termes de qualité plus que de quantité. Alors il y a la quantité en plus, on pense qu'il y a la quantité en plus, parce que ailleurs il dit il ne mourra pas, donc c'est quelque chose qui transcende effectivement notre vie et en particulier sa finitude, donc, mais sa finitude dans diverses dimensions, pas simplement la dimension du temps où d'aller au-delà de la mort dans les verts paradis, les verts pâturages du paradis. Donc, c'est plus profond que ça, je crois. Et c'est à saisir. Alors, je ne sais pas, par exemple, en hébreu, derrière, ce serait peut-être Olam. Et Olam, c'est Ad Olam, c'est pour l'éternité. Mais en même temps, le Olam, c'est ce qui est au-delà de ce qu'on peut voir. Alors ça peut vouloir dire effectivement l'infini au-delà de la barrière de la mort, bien sûr, peut-être que ça veut dire ça, mais ça veut dire aussi l'au-delà, j'allais dire, l'au-delà de notre finitude, aussi dans une capacité à espérer, capacité à aimer, capacité à vivre vraiment en sincérité, finalement, de vivre vraiment en aimant, vivre vraiment en percevant la véritable réalité, la véritable valeur des choses, des êtres, du monde. Donc vous voyez, c'est, c'est beaucoup plus profond que ça ne semble en français, dans cette traduction en particulier. Mais ça, je dirais, il y a eu peut-être une cinquantaine de mots, si vous voulez, à apprendre dans le langage, dans ce langage biblique, j'allais dire, comme étant vraiment chargé, lourdement chargé de sens, et d'un sens que ne rend pas forcément bien notre langage courant. C'est un peu des faux amis, si vous voulez, dans notre langage courant. Et là, quelque chose qui pourrait sembler tout plat, en disant « jure et cracher celui qui croit à ce que, je dirais, à la formule, à la lettre de ce que je vous enseigne, il va gagner un ticket pour le paradis ». On peut le lire comme ça, si vous voulez, alors qu'en c'est beaucoup plus profond que cela, et ça fait peut-être beaucoup plus d'usage pour approfondir notre qualité d'être, notre qualité de vie en ce monde et avec les autres.
Et les apôtres ne devaient rien comprendre.
Mais si, ils comprenaient tout parce qu'ils étaient de ce milieu. C'est comme quand nous, on raconte, si vous voulez, le corbeau et le renard, on comprend bien, ou le loup et l'agneau, on comprend bien de quoi on parle, si vous voulez. Mais pour eux, c'était aussi évident que ça, parce que c'était des... Vous voyez, c'était des mots, voilà. Quand on dit, je sais pas, je t'aime de tout mon cœur à quelqu'un, on comprend que ça ne veut pas dire qu'on va arracher son cœur ou que je ne sais pas quoi, si vous voulez. On comprend de qu'est-ce qui est en jeu. Et donc, ce n'est pas un langage ésotérique, crypté. C'est un langage, d'abord, quand Jésus racontait ça, enfin bon, je veux dire, il ne faut pas non plus faire mystère que c'est rédigé a posteriori, mais... Quand Jésus a dit quelque chose de cet ordre-là, il le disait en hébreu, en araméen, ou s'il le disait en grec, ou si c'est écrit en grec, c'est écrit en grec dans des milieux qui sont habitués à la Bible des Septante. Donc une traduction faite en moins 300 de la Bible hébraïque et qui nourrissait, je pense, les gens d'Éphèse, par exemple, bien que je pense qu'à la synagogue, la lecture était quand même faite en hébreu. Donc ils étaient nourris, si vous voulez, de ces notions quand même. Alors c'est vrai qu'ensuite, quand ça passe dans le monde grec, ben, peut-être que c'était moins facile à saisir. Bien qu'un certain nombre de mots comme éternel, bon, et puis le mot foi, c'est pas le mot la croire. On pourrait dire que c'est le verbe de la croyance, mais non, c'est le verbe de la foi, et quand c'est en grec, c'est évident, c'est pistis, c'est pas la doxa ou je sais pas quoi, hein, c'est... ou la gnosis, c'est pas la connaissance, c'est pas le dogme, c'est pas la doctrine, c'est la foi, c'est un élan c'est une qualité de relation, si vous voulez. C'est pas une qualité de pensée, c'est une qualité de relation. Et puis éternel, à mon avis, en grec, c'est pareil, c'est beaucoup plus large qu'en français, je pense.
Mais je parlais surtout quand il dit boire mon sang, manger ma chair, pour eux ça paraissait normal.
Je pense, pour reprendre un peu ce que disait Marc, effectivement, il y a des phénomènes, je vais le dire de façon un peu cuistre, mais d'intertextualité, c'est-à-dire que les paroles résonnent sur d'autres paroles. La tradition juive postule quand même une unité de l'écriture. On dit les écritures, on a raison, la Bible ça veut dire les livres, je passe mon temps à enseigner ça. Effectivement, il n'y a pas une unité de forme, il n'y a pas une unité littéraire. En revanche, le fait de lire la Bible dans la foi postule quand même qu'il y a une unité spirituelle et que donc on peut faire des liens entre les textes, même s'il y a des écarts historiques, chronologiques, des écarts même linguistiques ou d'inspiration littéraire, etc. Donc, à partir du moment où l'on croit qu'il y a une unité d'inspiration qui unit tous ces textes, eh bien, on peut se permettre des rapprochements. Moi, quand j'entends ça, qui mange ma chair et boit mon sang, c'est ce que je disais à Marc tout à l'heure. Moi, j'entends Ézéchiel. Alors, c'est au chapitre 3. On a regardé lorsque Dieu demande à Ézéchiel d'avaler, vous savez, le rouleau, de manger le rouleau de la Torah, etc. Donc, je pense qu'évidemment, les disciples connaissent ça. Ils entendent ça. Ça fait partie des parachutes qu'on lisait à la synagogue pour l'office du Shabbat, etc. Et puis il y avait toute une tradition homilétique, rabbinique, qui faisait qu'on reprenait ça, on commentait, etc. C'est d'ailleurs, cette image est reprise dans l'Apocalypse, où on voit aussi un ange, l'ange qui demande...
De manger, oui.
De manger...
Le rouleau aussi.
Le rouleau, hein, voilà.
Mais d'autant plus que là, la chair bassar, en hébreu, c'est le même mot que l'évangile, si vous voulez. L'évangile, c'est Bessora, et Bassar, c'est la chair, c'est la même racine, BSR, et c'est très connu. Alors j'ai cherché, si vous voulez, donc, par exemple, tous les passages d'Isaïe 40, 41, 52, avec marqué « Va et annonce une bonne nouvelle », ou alors, effectivement, on le retrouve aussi, hein, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent une bonne nouvelle, etc. Donc ça, c'est ce mot « bonne nouvelle », c'est Bessora, c'est le même mot que la chair en fait. Alors comment ça se fait? On ne sait pas, si vous voulez, parce qu'en hébreu, beaucoup de mots, beaucoup de racines veulent dire plusieurs choses. C'est une polysémie assez profonde. Mais alors ensuite, je ne sais pas s'il y a unité d'inspiration, si vous voyez, dans la Bible. Oui, il y a Dieu qui est derrière, et c'est tout des expériences spirituelles et des recherches de Dieu. Donc oui, il y a ce commun, c'est qu'il y a une relation quelconque avec Dieu, je veux dire, mais il y a une diversité quand même théologique, spirituelle, qui est considérable.
Ce n'est pas une unité positiviste, elle n'est pas donnée, c'est un combat. Oui. C'est le croyant qui cherche à unifier en lui des choses disparates, voilà. Bien sûr, totalement disparates.
Ah, voilà, mais quand on cite, par exemple, là, si ça cite Ézéchiel, eh bien, ça convoque cet univers de pensée d'Ézéchiel. Et on cite Ézéchiel, on va pas. Si une cite Ézéchiel plutôt que le deuxième livre des Chroniques ou le Lévitique, ça dit quelque chose, si vous voulez, parce que il choisit son camp finalement. Il s'inscrit dans une sensibilité aussi. Et donc citer un texte, c'est invoquer une problématique. Et effectivement, pour eux, c'était complètement parlant. C'était complètement parlant, ça faisait pas mystère du tout. Mais ça convoque pas simplement un texte comme manger le rouleau, bien sûr, ça convoque cela. Mais ça convoque aussi cette sensibilité qui annonce l'alliance nouvelle, qui annonce la venue d'un salut. Et puis, parce que c'est de ça dont parle Ézéchiel. Et quand ici, on parle de la chair, parce qu'il aurait pu le dire autrement, si vous voulez ça. Il aurait pu dire... quiconque mange ma parole, ça aurait été mon enseignement, il aurait pu dire ça, ça aurait été plus de l'Ézéchiel pur. Mais là, s'il met qu'il mange ma chair, eh ben, il convoque peut-être justement en même temps Ézéchiel et en même temps Ésaïe avec cette formidable livre de la consolation où on encourage effectivement à accueillir le messager de bonne nouvelle. Donc si vous voulez, c'est important de connaître un petit peu les Écritures, j'allais dire, mais en particulier pour lire le Nouveau Testament, il faut lire les livres que Jésus, qui sont de la sensibilité de Jésus, plus particulièrement, donc ceux que Jésus cite le plus. Donc bien sûr, il y a la Torah, les cinq premiers livres, mais ça c'est bien sûr le fond commun de tous et incontournable. Mais il y a aussi, effectivement, les psaumes, effectivement, les grands prophètes. Et ces textes-là sont plus particulièrement importants, à mon avis, à avoir en bagage, en viatique, pour aborder la lecture, la compréhension de ces textes. Et inversement, à mon avis, je dirais, nous lisons l'Ancien Testament... le Premier Testament, la Bible hébraïque, on le lit avec des lunettes, bien sûr, chrétiennes, c'est-à-dire avec la clé d'interprétation que nous tend Jésus-Christ quand il fait ses relectures. Hein. Voilà.
Bien sûr, l'Écriture n'est inspirée que si elle est inspirante, enfin, sans faire du subjectivisme radical, mais parce qu'évidemment, l'Écriture reste quand même une norme. Norma normans, dit l'Église, hein, la norme qui norme les autres normes. Donc, mais elle est inspirée que si elle est inspirante, que si elle prend corps dans un sujet. Et justement, en Jésus, elle prend corps. D'ailleurs, lui-même se prête à cette exégèse un peu pluraliste, hein, puisqu'il fait allusion à la manne, par exemple. Donc c'est presque une lecture qu'on appelait typologique, c'est-à-dire qu'on trouve dans le passé un type qui a son équivalent dans la situation vécue. C'était comme ça qu'on lisait l'histoire, d'ailleurs. C'est comme ça que le peuple hébreu invente, au fond, l'histoire, en créant des parallèles entre les époques. Donc la manne est un peu comme une sorte de pierre d'attente de la révélation, parce que dans l'évangile de Jean, Jésus est le révélateur, hein, avec toujours le risque d'être une sorte de Dieu qui marche sur terre et de tomber dans ce qu'on appelle le docétisme, c'est-à-dire une sorte d'avatar hindou, si vous voulez, hein, un Dieu qui n'est pas totalement incarné. Et c'est la raison pour laquelle, je pense, l'évangile met bien l'accent sur l'incarnation de Jésus pour ne pas tomber dans ce côté de dévoilement un peu gnostique. Alors, ce qui frappe aussi, bon, pour reprendre la phrase que tu commentais, celui qui croit à la vie éternelle, effectivement, c'est pas la doxa, c'est la pistis, donc c'est une foi, une confiance existentielle, qui a sûrement partie liée avec la connaissance, mais au sens biblique, c'est-à-dire une connaissance intime. Et quand il dit celui qui croit à la vie, on pourrait dire d'ailleurs l'inverse, c'est celui qui vit qui croit. C'est comme dans les béatitudes, heureux les pauvres de cœur, etc. Ce sont toujours des manières de désigner des gens qui ont la clé du bonheur, mais qui sont les derniers peut-être à le savoir. Il y a quelque chose là, celui qui croit à la vie éternelle, ça ne veut pas dire, attention, la condition pour avoir la vie éternelle, c'est de croire, comme on a pu le penser dans le passé. Moyennant quoi, on se forçait, évidemment, ça ne marche pas. Ou bien on disait credo, 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 et puis dans toutes les langues, et ça ne débouche pas non plus sur une foi active. Donc, celui qui a la vie, c'est celui-là qui croit, qui est dans le dynamisme vital de la foi. Celui qui croit à la vie éternelle... Les orthodoxes parlent souvent de la foi vivifiante. Ils aiment beaucoup utiliser comme ça des termes. Et je pense que la foi vivifiante, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est la foi qui, en elle-même, donne la vie. Donc, cette foi n'est pas une œuvre morte. Elle est du côté du vivant. Et d'une certaine manière, elle est intransmissible. C'est-à-dire que lorsqu'on me parle dans les débats internes à l'Église catholique, on parle souvent de la transmission de la foi. On dit on est dans une époque de rupture de transmission, on ne sait plus transmettre la foi. Mais on n'a jamais su. On ne peut pas transmettre la foi. La foi, elle est donnée par grâce. De ce point de vue-là, je suis entièrement d'accord. Ce qu'on peut donner, c'est des clés de compréhension. Ça, c'est très important. Il faut donner aux enfants, aux jeunes, une grille de compréhension, de déchiffrage ou de déchiffrement, de décryptage de ce qu'ils vivent déjà. Mais on ne peut pas créer de la foi. On ne peut pas inventer des machines à faire croire. On ne peut pas créer des conditions. Justement, ce serait du conditionnement. Ce serait du déterminisme. Et souvent, la transmission de la foi, au fond, n'est vue que comme un mécanisme de reproduction sociologique. C'est d'une pauvreté inouïe. On ne peut pas transmettre la foi. Il y a la foi qui est là. On l'a, tout le monde, d'une certaine manière. Mais après, il faut lui donner un corps. Il faut lui permettre aussi de lui donner une certaine formulation, un certain credo. Il y a un contenu de la foi. C'est pas seulement une forme vide. Il y a un contenu. Mais le pape François l'a redit récemment, effectivement. Les formulations sont toujours inadéquates. Alors, on le sait bien, mais les fantasmes de beaucoup de groupes religieux, ce serait que les formulations soient définitives, que les dogmes soient verrouillés une fois pour toutes, etc. Or, on sait bien que non, parce que précisément, on est dans cette espèce d'engendrement vital qui, à la fois, d'une certaine manière, est rassurant, parce qu'on voit que ça ne dépend pas de nos techniques et de nos structures, et en même temps est très inquiétant, parce que comment être un témoin parce que souvent c'est plus facile quand même de transmettre un catéchisme, etc. Donc et, voilà, il faut prendre au sérieux cette foi vivifiante dont parlent les orthodoxes et penser que notre rôle, c'est de l'expliciter, de lui donner corps. Voilà.
Alors sinon, il y a autre chose qui me gêne dans cette traduction. Ce qui est grave, c'est qu'il joue avec les temps des verbes. Et ça, c'est quand même assez étrange. Je ne sais pas ce qui a pu motiver cette traduction. « Tel est le pain qui descend du ciel. » Donc c'est le verset 50. « Que celui qui en mangera ne mourra pas. » Alors, ce qui est bizarre, si vous voulez, c'est que il n'y a pas marqué « mangera » au futur dans le texte. C'est un subjonctif aoriste, en fait. Donc, c'est un subjonctif passé. Un passé du subjonctif. Comment est-ce qu'ils sont venus mettre un futur? C'est invraisemblable, si vous voulez.
L'aoriste du subjonctif n'est pas vraiment un passé.
C'est pas vraiment un passé, c'est un présent.
Oui, c'est une sorte de... C'est pour dire que le...
C'est dans, oui, c'est ouais, dans la mesure, ouais. Dans la mesure où vous mangez, vous ne mourrez pas. Mais c'est ça, finalement. Alors, ce qu'il y a d'étrange, c'est que les gens, ils disent... Ben oui, on ne peut pas le manger maintenant, donc ils se sont trompés dans le texte, on va mettre un futur. Parce que, mais ça, si vous voulez, c'est quand même assez étrange, quoi. Et alors, c'est comme ça à peu près partout. Par exemple, je suis le pain vivant qui descend du ciel. Ah bon ? Mais là, c'est un participe passé, en fait. Descendu du ciel, en fait, c'est au passé. Qui descend ? Ben, je veux dire, le Christ n'est pas en train de descendre, hein. C'est ça qui est étrange. Qu'est-ce qui leur a pris de traduire au présent ce qui est un participe passé, quoi. C'est un peu étrange. Mais alors c'est comme ça un peu partout. Si vous ne buvez pas son sang, c'est au verset 53, vous n'aurez pas en vous la vie. Quoi.
Ça date de temps. Ça, c'est les années 70. Mais l'aoriste, c'est vrai, quand même, pour leur faire justice, l'aoriste n'a de sens véritablement passé qu'à l'indicatif. Donc, au participe, au subjonctif, etc. Il a une valeur aspectuelle. Non, c'est sûr qu'il tire du côté de... Oui, je vois très bien où tu veux nous emmener.
Non, mais je ne veux pas vous emmener quelque part. Il y a marqué un subjonctif.
Oui, oui.
Mais effectivement, je pense que c'est plus ça. C'est dans la mesure où... Et c'est bien ça qui est en question, finalement. Parce que... Ils veulent tirer du côté de l'Eucharistie, en fait. Qu'est-ce qu'ils veulent mettre à partir de... Qu'est-ce qui leur motive? Je n'osais même pas dire ça, leur faire un procès d'intention.
Et pire, du côté du viatique, c'est-à-dire d'où le futur, c'est-à-dire la dernière Eucharistie qu'on recevait et qui était la clé.
Oui,
de...
c'est ça.
Voilà.
Qu'on doit garder sous la langue en train de mourir.
Mais j'espère que je serai là pour te...
Pour me la glisser.
Pour transmettre.
Oui, oui. Mais donc, si vous voulez, alors il y a aussi peut-être quelque chose qu'on entend dire parfois et qui, à mon avis, est plus compliqué que ça. Je suis le pain de vie. Vous savez que dans l'évangile selon Jean, il y a toute une série de « je suis » qui est assez importante, effectivement, qui vient jalonner tout l'évangile selon Jean et faire comme des chapitres, en fait. Hein, je suis la lumière du monde, je suis la porte, la vigne, et là, je suis le pain de vie. Et il y en a même un... afin qu'ils croient que moi, je suis. Point. Alors on dit, ça c'est le tétragramme, en fait. Jésus déclare sa divinité. Mais c'est un peu vite dit, parce que si vous voulez, quand on regarde, ça c'est ego et me, et le je suis du tétragramme, c'est pas ce temps-là, c'est pas ego et me, c'est o-on, c'est l'étang, en fait, comme dirait, j'allais dire le petit canard, mais... C'est plutôt Heidegger qui parle de l'étang, je crois. Donc, c'est pas tout à fait ça. Mais c'est un peu ça quand même, si vous voulez. Parce que Dieu est le seul qui, au sens propre, peut dire « je suis ». Nous, on peut pas dire « je suis » comme si on pouvait se faire soi-même. On est le produit de tout un tas de choses. On est un petit peu « je suis » par les choix que l'on peut faire. Mais on n'est quand même pas énormément « je suis ». Alors que Dieu, si, le Dieu est l'unique incréé, finalement... Peut-être avec l'énergie et la matière, je ne sais pas. Mais en tout cas, si vous voulez, c'est à la fois... Mais souvent, l'évangile, selon Jean, est comme ça. Il donne d'une main ce qu'il retire de l'autre. Donc, par exemple, Jésus, dans la résurrection, c'est le plus incarné. Il mange des poissons, on peut toucher ses plaies. Et en même temps, c'est le plus spirituel, le moins charnel, parce qu'il passe à travers les portes, etc.
C'est très fluide, Jean.
C'est fluide, oui.
C'est très fluide.
Et là, si vous voulez, c'est à la fois une déclaration de divinité, dans un sens, et en même temps, c'est enlevé, vous voyez, en prenant pas le bon temps. C'est vrai que c'est... Du coup, on ne sait pas à quoi dire, hein, si c'est vraiment une déclaration de divinité ou pas, le « je suis » de l'évangile selon Jean. Alors là, oui, vas-y.
Non, je voulais dire quelques mots aussi sur la chair, avant qu'on passe à l'autre texte, mais parce que lorsque les auditeurs murmurent en disant « comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Vous savez, il y a toujours ça chez saint Jean. Nicodème aussi, comment il faut que je repasse par le sein de ma mère, il faut que je renaisse, etc. On a toujours l'impression qu'ils ne comprennent rien ou qu'ils sont mis dans une posture, en tout cas narrative, qui fait qu'ils jouent un peu au Candide. Vous avez déjà remarqué ça, la Samaritaine aussi. Comment nos ancêtres sont venus puiser dans ce puits et toi tu prétends avoir l'eau vive, etc.
Ou dans Jean 14, mais comment, on ne sait même pas d'où tu viens, comment
oui,
on saurait où
ça.
Tu vas.
Voilà. Alors c'est intéressant parce que comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? Ça va un peu dans le sens de ce que tu disais en introduction, c'est-à-dire que la chair, c'est pas tout à fait la chair, etc. Mais c'est intéressant parce qu'au fond, ça rejoint ce que la philosophie contemporaine au XXe siècle a essayé de cerner, et dans ses intuitions d'ailleurs les plus intéressantes en phénoménologie. La chair, nous ne savons pas ce que c'est. C'est pas seulement effectivement la chair au sens positiviste, la viande biologique, etc. Puisque chez Merleau-Ponty ou chez quelqu'un comme Michel Henry, qui était un marxiste qui est devenu chrétien, vous avez déjà entendu parler peut-être de Michel Henry, qui a énormément écrit, qui est mort un peu prématurément au début des années 90. Il parle sans cesse de la chair. La chair auto-affectée, la chair qui est finalement le vécu, hein, au sens phénoménologique, c'est-à-dire l'interface entre le sujet et puis le monde objectif. Et donc la chair, ça n'est pas seulement une réalité que l'on peut décrire de façon naïve. La chair, c'est... finalement, chaque sujet n'a accès aux autres que par sa chair, c'est le plus que par sa conscience. Oui. D'ailleurs, c'est le seul moyen qui nous soit donné d'entrer en relation, en intersubjectivité, etc. Corrigez-moi, François, si je dis des bêtises, mais la chair, il me semble que Jésus, ici, on peut l'entendre comme ça, que la chair qu'il demande que nous rencontrions, c'est bien autre chose, peut-être, que
sa viande.
Oui, c'est lui, en fait. Et donc, quand il dit « ma chair », c'est moi. Enfin, je ne sais pas comment...
Je sais que Derrida, il y avait eu un jour, je me rappelle, une émission, il parlait avec la Coulabarde pour les photos, il en était plus au toucher.
Oui.
Et c'était très intéressant, parce qu'il disait que justement, alors ça ne veut pas dire « on se touche », mais
oui.
Il disait que le toucher était tout à fait fondamental, c'est une variation de la chair. Donc,
bien sûr.
Et alors, je me rappelle, le speaker dit... Oui, bien sûr, en tout bien, tout honneur, etc. Alors Derrida dit, oh, en tout bien, tout honneur.
Mais c'est vrai que dans le toucher, on ne sait pas où commence l'autre. Oui.
Et Michel Henry, c'est l'essence de la manifestation.
L'essence de la manifestation. Et puis, ceci est mon corps, je crois.
Son dernier livre, non ?
Il y a C'est moi la vérité. Et le dernier livre, je crois que c'est Ceci est mon corps.
C'est pas tout à fait facile à lire, quand même.
Non, c'est pas facile à lire, mais c'est très répétitif. C'est toujours l'auto-affectation.
Tous ces concepts, c'est pour éviter absolument d'avoir le corps d'un côté et l'âme de l'autre. C'est la grande division platonicienne.
Bien sûr, bien sûr.
Tout à fait.
Oui. Et Michel Henry renonce justement au corps, parce que le corps, c'est encore une unité organisationnelle. La chair étant de l'ordre de l'expérience. Et de fait, dans le toucher, on ne sait plus où s'arrête le sujet et où commence l'objet. Hein, il y a une zone qui est la zone de contact où il y a bien espace commun. Et on parle de communion ici déjà, même si le mot n'apparaît pas, il y a une koinonia. Et Jésus, en donnant sa chair, cherche à toucher justement. Je me souviens d'un vieil évêque qui disait que les sacrements, c'était des touchés de Jésus. C'est très beau, des touchés. Parce que c'est toujours, les sacrements sont toujours de l'ordre, dans nos vieilles églises, de l'ordre de l'imprégnation. Ouais. Par l'eau, par l'onction, par la manducation aussi, par l'ingestion. Alors bien sûr qu'il ne faut pas en rester à une vision naïve, mais cette conception aussi du toucher, de l'ingestion et de l'imprégnation du Christos, parce que le Christos c'est quand même celui qui est imprégné d'huile, c'est ça que ça veut dire. Quand nous disons Christ, nous disons celui qui est imprégné, qui est frotté d'huile. Il y a bien dans cette imprégnation le toucher et donc cette indistinction entre le sujet et l'objet qui fait qu'on rejoint l'autre sans se fondre avec lui, sans être dans la fusion qui est toujours mortifère et fantasmatique.
Mais là, il y a même, je dirais que ça donne un peu le mode d'emploi du Christ, c'est-à-dire que le Christ n'est pas à apprendre par cœur, comme si c'était un, j'allais dire, un philosophe génial. Il est à mâchouiller, c'est-à-dire à déconstruire et à ingérer, comme tu dis. C'est-à-dire que c'est aussi un mode d'emploi, quand même. C'est-à-dire qu'on n'a pas à devenir des clones, des photocopies ou des petits moutons qui suivent le Christ, des petits chiens. Mais on a le droit de le faire nôtre. Et on en a même le devoir.
De l'assimiler, de le digérer, de le déconstruire,
ouais, de le mâcher. Parce que là, ce n'est pas simplement l'avaler tout cru. C'est vraiment mâcher, manger, là.
Et est-ce que ce n'est pas une réaction contre la théoria ? La théoria, c'est la contemplation grecque, où on voit, c'est surtout chez les platoniciens, où la vérité se donne à voir, à contempler, mais quand même dans un rapport sujet-objet qui est encore...
Oui, parce que la vérité, c'est un...
C'est passif, oui.
Aletheia, c'est un dévoilement, en fait. Mm-hmm. Et ensuite, il y a une contemplation. Mais là, la vérité, c'est... C'est-à-dire qu'effectivement, derrière le mot vérité, parce qu'on le retrouve dans l'évangile selon Jean, c'est pas une vérité de dévoilement, c'est une vérité de fidélité, une vérité de relation. Mais là, c'est même plus que ça. Comme tu dis, j'ai bien aimé ton histoire d'imprégnation. C'est-à-dire que c'est... il faut l'assimiler, finalement... plus que s'en revêtir. On retrouve parfois s'en revêtir. Mais là, c'est beaucoup plus profond que ça. Et j'aime mieux, finalement, cette image.
De pénétration.
Oui. Et puis de déconstruction, ouais. Et que ça devienne nôtre, finalement. Comme quand on mange un morceau de pain, on ne devient pas un pain. Ça nourrit le « je suis plus et mieux moi-même après avoir mangé le pain qu'avant de l'avoir mangé, mais je ne deviens pas plus pain pour autant ». C'est ça qui est proposé, je pense, dans ce mode d'emploi du Christ. Alors, pour aller dans le sens de ce que tu disais tout à l'heure, c'est que le verset 53, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, il y a marqué « vous n'aurez pas en vous la vie ». Mais en fait, c'est « vous n'avez pas en vous la vie ». Donc, c'est juste l'inverse. C'est-à-dire que celui qui mange la chair et qui boit le sang, c'est celui qui a déjà la vie. C'est-à-dire que quand on a la vie, ça donne envie à la personne... Elle discerne bien dans le Christ quelque chose qui est de l'ordre de la source de la vie, de la vie vivante, vivifiante. Et du coup, spontanément, naturellement, il a envie de se nourrir de cela parce qu'on sent que c'est ça qui va dans le sens de la vie qui est en nous. Et ça, on le retrouve aussi à propos de la vérité, quand il y a le dialogue avec Pilate, je ne me souviens plus très bien où, il dit « quiconque est de la vérité, écoute ma parole ». C'est-à-dire, c'est l'inverse.
Oui,
et il dit, qu'est-ce que la vérité, chapitre 10. Ben, il dit, quiconque est de la vérité, écoute ma parole. Le philosophe ou le théologien dira l'inverse. Il dit, quiconque écoute ma parole aura la vérité, parce que je vous la révèle, je vous la dévoile, la vérité ultime sur Dieu, sur le monde et sur votre vie. Mais Jésus dit l'inverse. Il dit, si vous vivez vraiment en sincérité, si vous, ben, spontanément, votre dynamique de vie rejoint la mienne, en fait. Donc je crois que c'est on pourrait le lire comme une arrogance de la part de Jésus, mais en fait on peut le lire à l'inverse, comme une ouverture, en fait, comme une ouverture. Tous ceux qui sont du côté de la vie, ils sont en fait d'accord avec Jésus, mais ça veut pas dire que c'est il y a que Jésus qui qui a la vérité. Non, celui qui est de la vérité, il est d'accord avec Jésus, il va dans le sens de Jésus. Et ça, c'est une réponse peut-être à des formes de monothéisme qui sont effectivement, et à juste titre, relevées par des Michel Onfray, mais un peu malhonnêtement, parce que ce type n'est pas un idiot. Mais il dit, voilà, le monothéisme est forcément intolérant, haineux, etc. Ben, pas du tout, si vous voulez. Si on croit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, ben, tous les gens qui cherchent Dieu ont le même. Hein. Et si on croit que Dieu est source de la vie, ben, même celui qui se pense athée comme une pierre, mais qui creuse et qui cherche, et qui trouve quelque chose qui rend la vie plus belle et plus tournée vers le haut et plus vivifiante, et ben, il a trouvé la source que nous, on appelle Dieu, et puis qu'il peut appeler... Perlimpinpin, si il a envie. Mais on parle bien de la même chose. Et je pense que, voilà, c'est un peu ça qui est dit ici. Et quand il transforme là, dans ce verset 53, un futur en présent, un présent en futur, ben, il bousille tout et il transforme ça en un truc mécaniste.
Conditionnel, quoi.
Et conditionnel, ouais. Voilà. Et du coup, ça devient. Ça tend à la fermeture, alors qu'en fait, ça. Tant plutôt à l'ouverture, en fait. Alors, il y a peut-être une chose qui peut-être faut noter aussi, c'est « Je le ressusciterai au dernier jour ». Alors, là aussi, c'est le langage est trompeur. C'est « ressusciter », on pense que c'est un retour en arrière, à cause du « re ». Mais non, il n'y a pas de « re », quoi. Oui, c'est... Au contraire, c'est une vie nouvelle, c'est éveillé, c'est au contraire, c'est... Et puis au dernier jour, l'eschatos, ça peut être le jour final, mais même en grec classique, c'est pas simplement le jour final, c'est le jour futur, c'est le jour à venir. Et en particulier dans les Septante, très fréquemment, l'eschatos, c'est plutôt... ça peut être le futur proche. Hein. Par exemple... Quand Jacob, Genèse 49, Jacob dit « Je vais vous raconter la suite ». Il raconte ça à ses enfants. Il parle d'eschatos, il ne parle pas de la vie future, après la mort, machin. Il parle de ce qui va leur arriver après. C'est tout dans le futur à moyen terme. Donc, et puis ici, le dernier jour, on est dans les derniers jours avec Jésus-Christ. Hein. L'heure, le dernier jour, l'heure vient, c'est la dernière heure, mais c'est l'heure ultime, c'est le temps présent, puisqu'on pense que Jésus est le Christ. C'est le temps de la vie éternelle qui surgit dans ce présent. Et donc, ce n'est pas une résurrection, c'est un éveil, c'est un... Là, je ne sais pas ce qu'il y a...
Je crois qu'il dit égeiro, là, d'ailleurs, non ? C'est le verbe éveiller.
C'est éveiller ou c'est...
Moi, j'ai pas mon... Sinon, c'est anisthémie, mais...
Oui, c'est anisthémie, oui. Donc, c'est levé.
Non ? Relevé.
Relevé. Ou levé. Oui, levé. Il n'y a même pas de re.
Il y a Anna, quand même, qui veut dire... Mais bon, de toute façon...
Ça peut être, oui.
Oui. Oui. On n'entend plus, non. Non. Ressurgir, on n'entend plus, non.
Non, mais on pourrait dire soit levé ou éveillé.
C'est le dialogue à Nicodème, hein, c'est la nouvelle naissance. C'est le...
Oui, on pourrait dire suscite hein, plutôt que ressuscite. Ou alors levé ou mettre sur pied.
C'est comme le futur, vous savez, on exige des élèves qui disent si tu viens, je serai content.
Oui.
Les futurs ici, ils sont, parce que vous avez la vie éternelle, je suis d'accord avec vous, mais quand on dit vous aurez la vie éternelle, ça ne veut pas dire que je ne pense pas qu'en français, vous avez raison.
Non, mais là, c'est un futur.
Vous aurez, ça puisse vouloir dire ça, mais ça ne veut pas dire si vous mangez là, vous aurez ensuite.
Non, ce que je critiquais, c'est pas, c'est vous aurez la vie éternelle, ce futur, il y est bien. Mais c'est le premier en disant. C'est le premier, il met quiconque mangera. Non, c'est quiconque mange, en fait.
Ah oui,
et ça, c'est abusé, parce que c'est vraiment du présent, quoi.
Oui,
Ah, c'est vraiment du présent. Et donc,
c'est comme l'anglais, dans les hypothétiques, en anglais, on met du présent.
Oui, là, c'est de l'hypothétique, on met du subjonctif
ou,
présent.
Même dans les temporels, when I come. Oui. Là, c'est l'éventuel. Ouais.
Là, c'est l'éventuel, mais même, je crois que c'est plus dans la mesure où, c'est-à-dire que, à la limite, c'est la. C'est tout le monde mange un petit peu, c'est-à-dire que personne ne peut vivre sans amour, tout à fait. Donc c'est dans la mesure finalement où vous, peut-être donc l'amour que manifeste Christ, mais plus largement, puisque on est appelé à reconnaître le visage du Christ dans ceux qu'on rencontre, c'est-à-dire dans la mesure où on arrive à se nourrir de ce qui est christique dans le frère, la sœur que je rencontre, dans cette mesure-là, et c'est-à-dire qu'on arrive à le manger sans nourrir pour devenir nous-mêmes meilleurs, nous-mêmes plus christiques, dans la mesure où on a ce geste de nourrissement de notre être profond par ce qui est christique autour de nous, on est dans la vie, je veux dire. C'est pour ça que dans la mesure de, peut-être me ressemble, peut-être rendre compte. Parce que souvent, on a l'impression, on mange ou on ne mange pas, c'est du oui ou non, c'est du on-off, or c'est plus compliqué que ça. On en mange tous un peu de ce qu'est le Christ, finalement, de la foi, de l'espérance et de l'amour, si vous voulez, pour reprendre les formules de Paul. Mais
on lit le suivant. Oui, qui est sublime.
C'est Jean 15 ou quoi ?
Ce qu'on lit pour le jeudi saint, au cours de la veillée. C'est quelle traduction ? C'est la traduction œcuménique, parce qu'on avait choisi il y a 7 ans, quand on a commencé, avec Hervé, de prendre plutôt la
TOB. Non, mais c'est bien. Ouais. Surtout qu'il y a une nouvelle, depuis le 2010, il y a une nouvelle version qui est quand même bien améliorée.
En particulier, les préfaces sont extraordinaires, sont très très bonnes.
Et puis il y a beaucoup d'erreurs comme ça qui ont été corrigées. Bon, pas toutes, il en reste encore plein, mais il y en a beaucoup qui ont été corrigées et c'est des endroits où c'est très précieux.
Bien, donc chapitre 15 et la prière de Jésus au chapitre 17. C'est un sommet du Nouveau Testament.
Peut-être Jean 15 d'abord, le premier, non ?
Ouais.
Le premier truc, Jean 15, la haine du monde.
Chantal Bosy.
Elle dit bien, oui.
Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. La haine du monde. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï le premier. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui lui appartiendrait. Et vous n'êtes pas du monde. C'est moi qui vous ai mis à part du monde. Et voilà pourquoi le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. S'ils ont observé ma parole, ils observeront aussi la vôtre. Tout cela, ils vous le feront à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. La prière de Jésus.
On peut s'arrêter là d'abord, non, peut-être ?
Oui.
Là, on a fini le Jean 15, merci beaucoup. Moi, ce que je remarque déjà, si vous voulez, c'est que c'est de vous aimer les uns les autres. C'est plus donc l'amour mutuel. C'est-à-dire qu'il faut savoir aimer, donc servir plutôt. Mais c'est vrai qu'aimer, là, effectivement, c'est toujours un peu un faux ami. On peut remplacer par servir, finalement, peut-être, chercher le bien de l'autre, finalement. C'est pas forcément avoir de la sympathie, c'est pas le même mot. Mais donc, on pourrait dire, là, on nous commande le service mutuel, c'est-à-dire de savoir servir celui qui en a besoin, donc discerner peut-être notre vocation personnelle, parce qu'on ne peut pas servir les 7 milliards de vivants au monde. Donc, il faut savoir quelle est notre vocation, vers qui on est envoyé, mais aussi on a la mission de se laisser servir, c'est-à-dire que parfois la véritable humilité, c'est plus de laisser l'autre être le Christ pour moi. Ça demande plus d'humilité d'être le pauvre qui reçoit, le débile qui prend une leçon, le méchant qui se fait, qui a besoin du pardon. Et ça demande souvent plus d'humilité, de laisser l'autre finalement être le Christ pour moi, parce que c'est ça qui lui permet aussi peut-être d'exprimer sa propre dignité. Ensuite, pour le monde, effectivement, Je ne sais pas, là je vous ai mis à part du monde. C'est quoi? C'est peut-être un mot d'élection, mais je ne sais pas si on est mis à part du monde, en fait. Un petit peu, quand même. C'est ek legomai, donc c'est ek hors d'eux, et legomai, c'est la parole, finalement. Donc on pourrait dire, c'est un peu comme quand on est élu, effectivement, on est désigné, quoi, finalement, dans le peuple, dans le monde, et quelque part on est mis à part, mais j'y verrais quelque chose qui est de l'ordre de la sainteté, la sanctification, c'est-à-dire que Dieu il appelle une personne par son nom, et dans un sens ça la met à part dans le monde. C'est pas au sens où d'un coup on devient on est hors du monde, parce que là on dit bien qu'on n'est pas hors du monde, mais je pense qu'on est mis à part parce qu'on est distingué du lot, et c'est ça la sanctification, on est appelé par notre nom. On est dans une relation personnelle unique, on est aimé comme étant unique, en fait, par Dieu. Et donc, du coup, on peut discerner peut-être quelque chose qui est de l'ordre d'une place dans ce monde, d'une vocation dans ce monde. Mais je ne sais pas si c'est sorti du monde, tu vois, je ne sais pas.
Oui, c'est quand même très clivant. C'est ça qui est toujours frappant chez Saint Jean, c'est que le Père n'est pas clivant, mais le Fils l'est. D'ailleurs, il dit, hein, ils vous le feront à cause de mon nom, donc, et pas de celui d'un autre, etc. On sait très bien, hein, dans la vie, il y a des personnalités parmi, je ne sais pas, les leaders, par exemple, puisque voilà, c'est comme ça qu'on parle aujourd'hui. Il y a des leaders qui ne laissent pas indifférents, donc on est pour ou on est contre, qui sont clivants, et puis d'autres qui sont plus, bon, voilà, la tradition de nos églises aujourd'hui, c'est de ne pas trop cliver, au risque de quelquefois d'une certaine langue de bois, etc., qu'on nous reproche. Et dès que vous avez des gens qui clivent, on le dit. Tel homme politique ou président de la République, qu'il a été en son temps, c'est un reproche. Voilà. Et on voit quand même ici un Jésus qui est clivant. Alors, ça ne veut pas dire que la vérité le soit, parce qu'il dit bien qu'il y a le Père. Hein. Ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Mais dans la réalité de ce monde, c'est pour ça que quand même, le monde chez Jean, alors je veux bien qu'il ne soit pas forcément maléfique, mais il est quand même une puissance d'opposition, de résistance, il y a quelque chose. Parce que dans ce monde, dans ce cosmos, qui n'est pas le dernier mot peut-être effectivement de l'histoire et du projet de Dieu, il y a bien un combat. Et on choisit Jésus, et il dit, c'est moi qui vous ai mis à part. Quelle que soit la manière d'ailleurs dont on traduit cette mise à part, c'est moi. Donc il est conscient qu'il est responsable, il parle solennellement à une heure quand même assez grave, puisqu'il sait ce qui va se passer. Et d'ailleurs on parle de l'heure de Jésus, hein. Oui, oui. Les théologiens parlent de l'heure, on parle même du livre de l'heure pour parler de la deuxième partie de l'évangile de Jean, qui est une sorte de diptyque. C'est moi qui vous ai mis à part, c'est moi qui, voilà, je vous ai attiré à ma suite, vous avez pris ma suite, et du coup vous n'êtes plus du monde. Et je pense que tout disciple du Christ, un jour, en fait l'expérience. C'est d'ailleurs extrêmement... ça peut être inconfortable, vertigineux. On s'aperçoit qu'on ne peut plus revenir en arrière. Que voilà, il y a quelque chose qui... Alors, quelque chose qui s'est dévoilé, et qu'on peut être comme le peuple hébreu dans le désert, hein, regretter l'Égypte, l'idolâtrie et la vie facile, mais tout d'un coup il y a quelque chose qui, voilà, et là on l'entend, qui nous dit, voilà, ben c'est moi qui t'ai mis dans le pétrin, et il en va de la vérité, de ta vérité, de la vérité du monde. Et voilà pourquoi le monde vous hait, etc. C'est-à-dire que si tu continues dans ce sens-là, forcément la compréhension sera aussi grande, voire plus. Il y a le mystère de la croix qui à un moment apparaît. Et ça, c'est rude, c'est rude. Et je crois que quand même dans les évangiles, alors il y a des évangiles, hein, virils, musclés, etc. Le discours sur la montagne, c'est voilà. Mais ici, il y a un resserrement quand même très dramatique sur le petit groupe.
Oui, mais en même temps, la croix, c'est pas... La croix est du côté du monde, là. C'est-à-dire que la crucifixion, oui. c'est parce que le monde est chaotique et il résiste à cette parole de vie, finalement, et qu'il veut l'étouffer. Ça dit quelque chose aussi du sens que pouvait avoir la croix et la mort du Christ ici. C'est de l'ordre de la résistance du monde, c'est de l'ordre du péché du monde, dans c'est un ça. Sens. C'est pas de l'ordre de la volonté de Dieu. Et il annonce, ben oui, forcément, moi le monde, là j'y vois finalement du chaos, j'y vois l'animal sauvage, j'y vois le mal au sens de manque de bien, comme dirait le père Augustin.
Mais il y a quand même...
oui, mais... Il y a la tentation et puis il y a le côté sauvage, j'allais dire, de l'homme et du monde, côté chaotique.
Inachevé.
Et donc, il y a cet effort de domestication, de travail dans le monde. Et d'ailleurs, on a c'est quoi ? C'est dans Jean 9, ça, non ? Avec l'aveugle-né. Il faut bien que nous fassions les œuvres du Père, en fait. Donc, on est là, en chantier, dans ce monde... dans ce monde inachevé, en chaos, et donc on est, oui, en première ligne dans cette... voilà. Et puis, je crois qu'effectivement, on peut dire que la foi chrétienne, les gens disent, oui, mais vous inventez Dieu et la foi pour vous rassurer. Il n'y a rien de rassurant là-dedans, au contraire. Et je crois que la foi, en particulier chrétienne, n'est pas un oreiller de confort. Au contraire, on nous dit les choses, bah, écoutez, oui, de toute façon, en aimant les autres... Ben vous allez en chier, quoi, en fait. Mais c'est vrai. C'est-à-dire, celui qui veut vivre tranquille, il vaut mieux vivre égoïstement son petit truc. Alors, ça fait une vie un peu appauvrie, mais finalement, on est quand même bien tranquille. En train de siroter son orangeade sur un hamac, c'est assez sympa. Mais bon, là, il y a un autre projet, finalement. Il y a un autre projet, mais il ne nous dit pas... oui, allez-y, c'est un projet qui est génial, qui est sympa, vous allez gagner au loto. Il dit non, ça, vous allez gagner, ce que vous allez gagner, j'aime mieux vous dire tout de suite, c'est plutôt des ennuis, quoi. Je pense que oui, c'est une vie qui est éternisée, c'est-à-dire une vie qui est vivifiante, qui est riche, qui est profonde et qui est vraie. Mais pas facile, voilà.
Qui sauve sa vie la peur. Alors, on termine,
ce Jean, formidable Jean 17.
Incroyable, oui, la prière de Jésus.
Est-ce que quelqu'un a du souffle, hein?
Ça se lit d'une seule traite. Ah, mais vous avez vos lunettes. Voilà.
Mais si vous en avez marre
mais
au milieu,
non, mais
vous
lisez,
la main.
Guillaume se fera une joie de prendre... Vous lisez les deux premiers, puis voilà.
La prière de Jésus. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, et que, selon le pouvoir sur toute chair que tu lui as donné, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. » Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi, de cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi. Tu me les as donnés et ils ont observé ta parole. Ils savent maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi, que les paroles que je leur ai données sont celles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Ils ont véritablement connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, comme tout ce qui est à toi est à moi, et j'ai été glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, eux restent dans le monde, tandis que moi je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Lorsque j'étais avec eux, Je les gardais en ton nom que tu m'as donné. Je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, en sorte que l'écriture soit accomplie. Maintenant, je vais à toi et je dis ces paroles dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie dans sa plénitude. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité. Ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie dans le monde. Et pour eux, je me consacre moi-même afin qu'ils soient eux aussi consacrés par la vérité. Je ne prie pas seulement pour eux. Je te prie aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi. Qu'ils soient en nous, eux aussi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux comme toi en moi, pour qu'ils parviennent à l'unité parfaite et qu'ainsi le monde puisse connaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée, car tu m'as aimé dès avant la fondation du monde. Père juste, tandis que le monde ne t'a pas connu, je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi en eux.
Merci beaucoup, merci beaucoup, Nicole. Oui.
Oh. Oui. Non, c'est un très beau texte, c'est magnifique. Hein. C'est un des plus beaux textes de la littérature, je pense, du patrimoine mondial de la littérature, par cet incroyable souffle.
Nous le lisons ici le jeudi saint pour la veillée au reposoir.
Fait,
Oui.
Je ne sais pas si vous vous souvenez.
Un jeudi saint ou...
Oui, je crois bien.
D'accord.
Et déjà, j'étais essoufflée, mais là...
Je me souviens parce que vous m'aviez dit la même chose.
Oui,
Non, mais j'ai remarqué aussi qu'il faut du souffle. Ça m'est déjà arrivé de devoir le lire d'une traite. C'est à haute voix. Oui, oui. Non, c'est très beau.
Ça travaille, hein.
On trouve, c'est étonnant parce que c'est Jésus qui parle et qui parle en jeu. C'est pour ça qui nous introduit dans la prière. Donc on a quasiment toute la vie de l'Église ici. On a la tradition, puisqu'il est question des paroles qui ont été données, que les paroles que je leur ai données sont celles que tu m'as données. Donc effectivement, il y a un phénomène de don, donc l'origine de la tradition. On a une théologie aussi de la mission, avec l'envoi. Hein, tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie dans le monde. Donc il y a le don initial, il y a l'envoi initial. Donc on a la tradition et on a la mission. On a aussi la communion. Je suis en toi, toi en moi, et moi en eux, etc.
Qu'on soit un comme nous sommes un.
Voilà. C'est, donc tradition, mission, communion. On a la contemplation chrétienne, parce que qui est l'introduction dans la prière du Père par le Fils, d'une certaine manière. Et on a déjà la théologie, j'ose pas dire trinitaire, parce que c'est peut-être pas important de le dire, mais tu m'as aimé dès avant la fondation du monde. C'est quand même la grande question qui s'est posée aux disciples de la deuxième génération. Qui est Jésus? Et voilà. Son autorité est-elle simplement historique et contingente, ou bien y a-t-il ce qu'on appelle, moi j'aime pas beaucoup ce mot, mais ce qu'on appelle une préexistence? Est-ce qu'il y a une préexistence en Dieu? Et de fait, chez Jean quand même, parce que je sais ce que tu vas me dire, c'est quand même c'est le monogène, c'est le Fils unique, parce qu'il porte en lui la filiation à laquelle il nous introduit, bien sûr. C'est pas une sorte de apax. C'est pas la singularité de Jésus n'a de valeur que parce qu'elle nous est proposée et transmise. Mais il est le monogène là. Il y a une vision. vision très, oui, très haute.
Et en même temps, là où c'est pas trinitaire, c'est qui distingue très bien celui qui envoie et lui, il est envoyé. Et donc il y a une distinction très ferme.
C'est ça la Trinité, normalement. Distinguer sans séparer.
Il y a quand même une distinction.
En le lisant, j'ai eu une pensée à un moment donné, c'est très dur. Allez, où je vais. Je pensais ça en le lisant.
Ben oui.
Comme si il y a quelque chose qui était dans le texte qui me poussait. C'était...
Mais à ce moment-là, on est inséré dans cette Trinité, parce qu'il y a l'unité du Père et du Fils, mais en même temps, on est intégré à cette unité.
Bien sûr, j'espère bien.
Mais oui, mais...
J'espère que je suis dans la Trinité. Par le baptême, nous sommes incorporés au Fils dans...
Oui.
Non, mais la Trinité, c'est pas... Sinon, on en fait quelque chose de...
On n'est pas incorporé en Dieu, on est, je veux dire...
Au Christ, qui...
C'est-à-dire on devient christique, voilà, on est le Christ et le Fils premier-né d'un très grand nombre de frères et sœurs. Et comme tu dis, en Christ, bon, et on trouve ça beaucoup dans Paul, mais c'est un peu la même chose ici, c'est-à-dire que le Christ est ressuscitant et du coup, comme le Christ est mort et ressuscité, nous, on meurt et on ressuscite en Christ. Et donc, voilà.
Mais je m'aperçois, je fais juste un petit commentaire parce que je suis un peu bérulien. Et oui. Bérulle est un des seuls à dire, et c'est presque hétérodoxe, hein, que l'incarnation ajoute quelque chose à Dieu. Il le dit plusieurs fois, ce qui est assez énorme, hein, c'est presque... Voilà. Et si l'incarnation ajoute quelque chose à Dieu, ça veut dire que c'est complètement fou. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas seulement révélé, mais quelque chose qui se passe au moment de l'incarnation. Il y a un événement qui modifie le programme génétique de Dieu. Mais ça, c'est Bérulle.
Oui, on peut dire ça, mais c'est vrai qu'en même temps, la préexistence, qu'est-ce qui préexiste ? C'est pas Jésus avec ses sandales, de toute façon. Donc, ce qui préexiste, quoi ?
Moi, je dis évidemment.
Ben, évidemment.
C'est le Fils.
Oui, mais c'est le Fils. C'est l'homme avec un grand H qui a préexisté. On pourrait dire, comme... Le plan d'une maison, la maison existe dans l'idée de l'architecte avant qu'elle soit construite.
Bon, mais l'homme avec un grand H.
Ben, c'est le Christ, c'est-à-dire il préexiste dans la parole, c'est-à-dire que dans le plan de Dieu, dans le, je sais pas, c'est comme ça qu'on peut voir les choses. Il préexiste pas en tant que Jésus de Nazareth.
Non.
Donc il préexiste en tant que Christ. De toute façon,
on a toujours distingué Jésus de Nazareth et puis le Fils.
Mais même dans la Trinité, théoriquement, la deuxième personne, bon, c'est un anachronisme de dire Trinité ici, parce que à cette époque-là, il n'y avait même pas le début du quart du concept. C'est deux siècles plus tard, c'est 10 générations plus tard de chrétiens, en fait. Mais néanmoins, la Trinité, ce n'est pas un ovni qui tombe, une météorite qui tombe du ciel, c'est-à-dire que c'est une extrapolation, une construction, un essai de synthèse et de compréhension de ce qu'il y a dans ce genre de texte. Donc c'est pas du tout étranger à ces textes, mais c'est pas présent non plus. C'est plutôt une construction intellectuelle qui cherche à rendre compte de ces textes. Mais la deuxième personne de la Trinité, c'est de toute façon pas Jésus, c'est la parole. C'est pas sans rapport avec le Christ. Et c'est pas sans rapport non plus avec Jésus, puisque Jésus est le Christ. Mais d'un autre côté, il n'y a pas du Christ. Jésus est le Christ, mais à mon avis, il n'y a pas du Christ quand Jésus. C'est ce qu'on a vu un peu tout à l'heure. Il y a du christique, il y a du Christ aussi dans Abraham, dans Bouddha, dans Mohamed, et puis dans vous aussi. Mm-hmm. Voilà. Donc, sauf que Jésus, il est « the Christ ». C'est-à-dire que, bon, il est d'une manière ultime autant qu'on puisse l'être, j'allais dire. Donc, ce n'est pas sans rapport. Mais ce n'est pas la préexistence. « Car tu m'as aimé d'avant la fondation du monde. » Des parents, ils peuvent aimer leur enfant alors qu'il n'est même pas conçu encore. Ils ont parfois même choisi le prénom avant même qu'il l'ait conçu. Donc, on peut aimer être aimé avant d'exister, si je puis dire. Ben, c'est un peu ça, à mon avis, qui est en cause ici.
Oui, mais tu as une conception un peu évolutionniste de la théologie. Mais je peux comprendre. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un développement du dogme, hein, de toute façon, c'est vrai. Mais on a toujours l'impression, mais ça c'est que plus on s'éloigne du moment Jésus et plus on est dans l'erreur.
Non. Sauf que moi,
mais
que
beaucoup,
dirais...
beaucoup de gens
non,
le pensent.
Non, je dirais pas ça. Au contraire, par exemple, quand on fait des. Maintenant, on connaît, je pense, mieux au XXIe siècle le message des évangiles qu'il y a 500 ans. Mm-hmm. On en est. Voilà. Et donc, non. Mais néanmoins, il y a quand même un écart, à mon avis, qui est intéressant à maintenir entre la personne de Dieu et tout discours sur Dieu. Là, il y a un saut quantique. Un saut, j'allais dire, un abîme. C'est comme entre une personne et une photo. Il peut y avoir des photos plus ou moins meilleures. Et à mon avis, effectivement, avec les siècles, la résolution en nombre de pixels augmente. On s'approche toujours un peu plus, Dieu voulant, si
oui,
je peux dire.
Comme image.
On peut s'approcher toujours plus de ce qu'est Dieu ou de ce qu'est le Christ, la connaissance de ce qu'il est pour le monde. Mais il y a quand même toujours un saut infini entre Jésus et ce qu'on peut dire de Jésus, entre Dieu et ce que la Trinité en dit, si vous voulez. Et ça, à mon avis, c'est pas plus on est ancien et plus le... Non, c'est que si on pouvait entendre vraiment Jésus parler, le voir agir et vivre, on aurait effectivement là, il y a quelque chose qui est un saut infini entre... toucher et voir le vrai Jésus et entendre parler de lui. Ça, on ne pourra jamais rattraper ce gap, cet abîme. Et oui, mais une fois qu'on est passé ce gap, ben oui, on peut continuer, je crois, à progresser. Alors ensuite, bon, les témoins, comme Jean, s'il est témoin, ben, il transmet ses tripes, si vous voulez, il transmet une expérience. Et donc ça, on n'y peut rien, c'est quand même irremplaçable. On perd en ce moment les derniers témoins d'Auschwitz. Et je veux dire, nous, on peut connaître des tas de choses sur Auschwitz, et peut-être qu'avec les recherches historiques, on peut progresser sur la connaissance de ce fait d'histoire particulièrement spectaculaire. Mais on n'en aura jamais une connaissance comme quelqu'un qui y a été. Mais ça, il y a un saut qui est irréductible. Donc oui, entre Jésus et le Jésus ensuite des théologiens, ben, y a quelque chose qui est un écart irréductible.
Oui, si ce n'est que la connaissance du Christ, mais tu l'as laissé toi-même entendre en parlant d'un Christ diffus, c'est pas exactement comme connaître une situation historique... et d'ailleurs, les témoins d'Auschwitz ne racontent pas forcément d'ailleurs les mêmes. Il y a toujours quelque chose qui échappe. Et je pense que justement, la foi, qui est aussi une connaissance, qui n'est pas seulement un savoir, bien sûr, mais qui est aussi une connaissance, peut être possible. Je pense que nous pouvons vivre de la même foi que les disciples. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a une sorte d'irréductible, il y a un noyau dur de la foi qui est très dur à saisir.
De la foi et du Christ et de la parole peut-être, mais de Jésus. Jésus ?
Ah oui, pour les témoins oculaires, d'accord. Mais on peut parler de Jésus justement sans l'avoir connu. Et on peut l'aimer sans l'avoir connu. Oui. C'est le propre de notre foi. Et on peut l'aimer d'un amour aussi fort que ceux qui l'ont connu. Alors c'est compliqué parce qu'on sait que lui-même aimait plus un tel qu'un tel. Le disciple qu'il aimait, etc. Donc il y a quand même des distinctions. C'est toujours troublant, ça vient du judaïsme. C'est quand même un Dieu qui élit, qui choisit. Donc il choisit certains plus que d'autres, etc. Ça, c'est troublant. Et toute la structure de l'Église est fondée un peu sur ça. C'est pas facile à comprendre.
Mais sauf que ça, je crois que c'est l'écart entre le Jésus et le Christ. Jésus. Je veux dire, c'était un homme incarné, il n'a pas été évangélisé, les papous. Il avait une vocation en ce monde qui était courte, qui était incarnée, donc il a pu parler à un nombre fini de personnes.
Bien sûr,
ouais. Même si le salut qui est donné, je dirais, à travers cet homme, il se déploie pour l'univers entier et les générations futures. Donc oui, il y a des gens qui lui sont donnés dans sa vocation personnelle de Monsieur Jésus. Mmh. Mais ensuite, le Christ, il est pour tous.
Ben voilà.
C'est ce que mais c'est ça le problème, oui. C'est qu'il faut, il faut faire la différence toujours entre Jésus et le Christ.
Oui, oui, oui.
Et c'est pas sans rapport, parce que mmh. Jésus est le Christ. Mmh. Mais, bon, mmh. le Christ...
Il ne dit pas à saint Thomas, heureux es-tu de m'avoir connu, malheureux seras-tu de parce que vous me connaîtrez pas, il dit le contraire. Il dit, ils seront heureux aussi d'avoir la foi. Toi, tu as la chance de me toucher, lui, il se touche.
Heureux, ceux qui... Okay,
ouais.
Tout à fait, ouais. Alors, juste pour terminer, il y a quand même, on a l'impression que le monde, là, puisque c'est notre sujet, le monde va quand même un peu à la poubelle, là, hein, parce qu'il dit, je prie même pas pour le monde, c'est extraordinaire, on se pince d'ailleurs, et, mais, il dit non, je prie pour vous, mais je prie plus pour le monde, ça.
Oui, mais parce qu'ils sont envoyés dans le monde, et
mais j'entends
sont...
bien, mais de fait, par exemple, quand même, dans, chez les synoptiques, Jésus demande l'amour des ennemis, par exemple. Ici, il n'y a plus l'amour des ennemis, c'est les, aimez-vous les uns les autres, c'est-à-dire la communauté doit être témoignante, etc. Je ne dis pas que ce soit incompatible, mais c'est des accents quand même différents. L'amour des ennemis, ça ne veut pas dire que l'ennemi devient un ami, d'ailleurs. Mm. Si on aime un ennemi, ça veut dire qu'on respecte en lui quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il devient un ami, parce que ça, ce serait, ça c'est une compréhension fausse du christianisme. C'est comme tendre la joue. Quand il dit tendez la joue gauche, bah, quand on l'a giflé, lui, il n'a pas tendu la joue gauche chez le grand prêtre. Hein, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit pourquoi tu me gifles? Et il a eu bien raison. Donc l'amour des ennemis, ça ne transforme pas l'ennemi en ami. Au contraire, c'est ça qui est fort. C'est qu'on arrive à aimer un ennemi, qui est un ennemi objectif. C'est dur, moi, pendant longtemps, j'étais plus irénique que je ne le suis. Maintenant, je me dis, il faut accepter d'avoir des ennemis, d'avoir des adversaires. Non, mais tu vois ce que
oui,
je veux
oui,
dire
oui, tout à fait.
Et on peut les aimer. Et c'est très sain, plutôt que d'essayer de tout absorber, de tout raboter, etc. Mais ici, il n'est plus question de ça. Ici, c'est aimez-vous les uns les autres. Il y a quand même une sorte de resserrement sur la cellule d'Église, qui est en péril, qui est exposé à la persécution, et on voit quand même que, voilà, il s'agit d'abord de manifester l'amour au sein de l'Église. Et de fait, aujourd'hui, les débats qui animent nos Églises sont toujours un peu de cet ordre-là. Qu'est-ce qu'on privilégie? Est-ce que c'est l'intérieur ou est-ce que c'est l'extérieur? Alors, le pape dit les périphéries, comme ça, c'est bien, parce que c'est comme pour la chair, c'est le point de contact, justement,
oui, mais quand
entre
même,
l'intérieur et l'extérieur.
Mais quand même, il les envoie dans le monde, hein, 18. Il les envoie dans le monde, donc il n'y a pas... il les envoie dans le monde pour ensemencer le monde, hein, c'est-à-dire qu'il y a quand même là quelque chose...
Et pour
chose,
que leur groupe s'étende.
Il y a quelque chose de l'amour des ennemis,
oui.
Il y a quelque chose de l'amour du monde, finalement, puisqu'il les envoie dans le monde. Il est concerné par le monde, mais effectivement... le monde les haït, mais la haine, elle est du côté du monde. Donc, il y a là quelque chose de l'amour de l'ennemi, finalement. Mais il y a l'idée, garde-les de la source du mal, finalement. Et donc, c'est être... Alors, ce qui est là encore, c'est je ne suis pas du monde, ou ils ne sont pas du monde, c'est-à-dire ils ne sont pas issus du monde. Ce n'est pas tout à fait bien traduit. C'est pas que... C'est pas qu'on est des extraterrestres, c'est-à-dire que c'est pas le monde qui nous donne notre nom finalement, ou qui donne notre, qui nous détermine normalement. On est déterminé, on est né d'autre chose en Christ, et c'est ça qui fait notre vie, et on est envoyé justement dans le monde sans être issu du monde. On est voilà, on est un peu halogène dans ce monde.
Et la fois prochaine, nous verrons un monde nouveau du Premier Testament jusqu'à l'Apocalypse. Vous voyez quel programme. Donc voilà, je fais toute chose nouvelle.
Et donc bon retour, merci de nous avoir
rejoints. Merci beaucoup.